VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 23 mai 2016. Au sommaire ce soir...
Grève générale au Gabon, les salariés du public et du privé dénoncent l'emploi abusif et exigent le paiement des primes.
Consultation inter-burundaise à Arusha, mais sans la participation d'un des principaux protagonistes, la coalition de l'opposition en exil, Sénared.
Une organisation comme la plateforme Sénared s'est donnée à nom, c'est pas son nom-là qui soit considéré quand on invite en tant que plateforme dans ces négociations.
Série d'attentats en Syrie revendiqués par le groupe djihadiste État islamique, au moins 148 morts dans les fiefs du régime de Bachar al-Assad.
Barack Obama annonce la levée de l'embargo sur les ventes d'armes américaines au Vietnam.
Un magazine, le premier sommet mondial de l'humanitaire qui se déroule à Istanbul en Turquie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Grève générale d'une semaine du public et du privé au Gabon à l'appel de la Confédération syndicale Dynamique Unitaire. Un piquet de grève est organisé devant la primature à Libreville et les gouvernorats et préfectures en province. Les revendications des grévistes sont essentiellement d'ordre salarial. Nathalie Barge a joint le président de Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama.
Le gouvernement fait des promesses, il s'engage et il ne respecte pas ses promesses. Compte tenu des échéances électorales assez tumultueuses, on s'est limité aujourd'hui aux revendications purement salariales. Il n'y a aucune revendication structurelle. Nous demandons le paiement de la prime d'incitation à la performance du deuxième trimestre 2015. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième trimestre 2016. Ça veut dire que c'est une prime depuis un an qu'ils n'ont pas payée. Nous demandons également le paiement des rappels. Ce sont les retenues de salaire, ou du moins l'absence de salaire. Lorsque un fonctionnaire commence, en général, il n'est pas payé aussitôt. Il peut attendre 3 ou 4 ans avant d'être payé. Et ces salaires cumulés font ce qu'on appelle les rappels de solde. Il en est de même pour les avancements automatiques qui ne sont pas faits dans les temps. Donc, ce sont des salaires dus. Et là, le gouvernement avait promis de régler le problème de rappel fin 2015. Ils n'ont pas réglé le problème de rappel. Donc, ce sont les principaux points pour lesquels le gouvernement n'a pas respecté sa promesse et qui nous ont conduits à la grève.
Le syndicaliste gabonais Jean-Rémy Yama.
L'Union européenne exhorte la République démocratique du Congo à redémarrer au plus vite le processus électoral. Alors que la présidentielle est prévue cette année, Bruxelles se dit également préoccupée par le harcèlement et intimidation dont font l'objet certains opposants.
Ouganda, la police accuse l'armée congolaise d'avoir tué 4 de ses officiers sur le lac Albert. D'après une source policière citée par l'AFP, les agents enquêtaient sur des activités de pêche illégales sur la partie ougandaise du lac Albert.
Manifestation de l'opposition au Kenya, la police anti-émeute a dispersé au canon à eau et gaz lacrymogène des protestataires. À un peu plus d'un an de la présidentielle, ils exigent la dissolution de la commission électorale jugée partisane. Les médias locaux ont rapporté qu'au moins une personne avait été tuée à Kisumu, dans l'ouest du pays, alors que la police et des petits groupes de manifestants ont joué au chat et à la souris dans la capitale Nairobi et dans la deuxième ville du Kenya, Mombasa.
Violence tribale au Darfour, dans l'ouest du Soudan. 8 membres d'une minorité ethnique ont été tués par balles par des combattants arabes alors qu'ils étaient en train de prier dimanche soir dans leur village. C'est ce que rapportent un médecin et un responsable tribal cité par l'agence France Presse.
Le parquet sud-africain s'est déclaré aujourd'hui favorable au rétablissement de 783 chefs d'inculpation de corruption contre le président Jacob Zuma. Une décision destinée à gagner du temps, selon l'opposition, pour protéger un président embourbé dans d'autres scandales. Nani Talani.
Les 783 charges relatives à la corruption, la fraude fiscale et aux rackets avaient été abandonnées en 2009, quelques semaines seulement avant l'élection de Jacob Zuma à la présidence. Mais fin avril, la Haute Cour de Pretoria a estimé à l'unanimité que le parquet avait agi de façon irrationnelle en les abandonnant pour vice de forme. Cette décision doit être revue et le président devrait être poursuivi pour ses chefs d'inculpation, a ajouté le tribunal, renvoyant la balle au parquet. Aujourd'hui, le procureur général Sean Abrams a choisi de faire appel de ce jugement, se déclarant de fait défavorable au rétablissement des charges. Il estime que la décision de la Haute Cour est susceptible de faire jurisprudence et remet en cause les pouvoirs discrétionnaires du procureur. Pour le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui avait saisi la Haute Cour, l'appel du parquet est une tactique évidente pour gagner du temps et protéger Jacob Zuma. Ce parti pense toutefois que Jacob Zuma sera jugé un jour et que la justice l'emportera, quels que soient les tours de passe-passe de l'État.
Le Libéria et la Guinée ont ouvert des enquêtes pour corruption autour de contrats miniers. La mesure fait suite aux récentes accusations provenant de l'ONG britannique Global Witness. Des membres du pouvoir et leurs proches sont visés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Série d'attentats en Syrie, au moins 148 morts dans des attaques revendiquées par le groupe djihadiste État islamique et qui ont touché Tatou et Jablé, des villes jusqu'ici relativement épargnées par la guerre. Maïli Segel.
À Tartous, deux kamikazes se sont fait exploser à l'intérieur de la gare routière, suivie de l'explosion d'une voiture piégée à l'extérieur. Un quart d'heure plus tard, des explosions se sont produites simultanément à 60 km dans la ville de Jablé, devant la gare routière, la compagnie d'électricité et deux hôpitaux. Au total, la police fait état de 4 voitures piégées et de 3 attentats suicides. Un bilan d'au moins 148 morts et des dizaines de blessés, la quasi-totalité des civils. Tartous et Jablé accueillent respectivement la base maritime et l'aéroport militaire du contingent russe, soutenant les forces gouvernementales. Il s'agirait d'un coup d'éclat de la part de l'État islamique pour montrer qu'il est toujours opérationnel malgré ses défaites dans l'ouest de l'Irak et dans l'est de la Syrie.
Les troupes irakiennes ont lancé ce lundi une offensive pour reprendre au groupe État islamique la ville de Fallujah, c'est un centre religieux important pour la minorité sunnite en Irak. Dimanche, le commandement irakien des opérations a appelé les civils se trouvant toujours à Fallujah, soit plusieurs dizaines de milliers de personnes, à quitter la ville. Ceux qui sont dans l'impossibilité de le faire doivent accrocher un drapeau blanc sur leur maison et se tenir loin des positions de Daesh, a-t-il ajouté. On rapporte aussi des bombardements aériens de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Des bombardements qui, bien sûr, ont pour cible des djihadistes à Fallujah. Depuis 2 ans, les djihadistes renforcent leur défense dans cette ville, rappelle l'AFP.
Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de 2 attentats suicides menés aujourd'hui dans la ville d'Aden, dans le sud du Yémen. Le bilan provisoire est de 45 morts et plusieurs blessés. La plupart des victimes sont des recrues de l'armée. Aden sert de capitale temporaire au gouvernement yéménite, appuyé par les Saoudiens, tandis que Sanaa, la capitale, reste aux mains des rebelles houthis, soutenus par l'Iran. Le conflit au Yémen a fait au moins 6 200 morts et près de 3 millions de déplacés depuis mars de l'année dernière.
Le Premier ministre israélien a signifié aujourd'hui son refus des conférences internationales et des diktats internationaux, ses propres termes, dans la crise israélo-palestinienne, alors qu'il recevait à Jérusalem le Premier ministre français Manuel Valls. Pas de surprise de ce côté, souligne l'AFP, puisque la France s'attendait à la résistance de M. Netanyahou à son initiative d'une conférence. Benjamin Netanyahou propose à la place des discussions bilatérales à Paris. Manuel Valls a promis d'en faire part au président français François Hollande.
Le président des États-Unis est en visite au Vietnam pour 3 jours. Il a annoncé aujourd'hui la levée de l'embargo sur les ventes d'armes américaines à Hanoï. On fait le point avec John Lyndon.
Après la levée de l'embargo en 1994 et la normalisation des relations diplomatiques 1 an plus tard, cette décision a une forte dimension symbolique pour les 2 anciens ennemis de guerre. À son arrivée à Hanoï, M. Obama dit avoir été impressionné de voir des milliers de personnes, smartphone en main, sur le bord de la route. Barack Obama est resté évasif sur la question des droits de l'homme, se bornant à rappeler des différences entre Washington et Hanoï. Il mettra également à profit cette visite pour renforcer les liens économiques avec le Vietnam, un pays de 90 millions d'habitants. La compagnie aérienne Vietjet a d'ailleurs annoncé l'achat de 100 Boeing 737 pour plus de 11 milliards de dollars. Après le Vietnam, Barack Obama est attendu vendredi au Japon. Il sera le premier président américain en exercice à visiter Hiroshima, où les États-Unis avaient largué la première bombe atomique de l'histoire.
Une réduction de la dette grecque doit être inconditionnelle et ne pas être nécessairement liée à l'application des mesures de réforme. C'est du moins ce qu'a affirmé le Fonds monétaire international dans un document publié aujourd'hui. Apporter une composante inconditionnelle portant sur l'allègement de la dette est essentiel pour fournir au marché un signal fort et crédible sur l'engagement des créanciers institutionnels, affirme le FMI dans ce document.
Ici aux États-Unis, la course à la Maison-Blanche s'annonce plus serrée que prévu entre le milliardaire Donald Trump et l'ancienne première dame et ex-secrétaire d'État Hillary Clinton. De récents sondages révèlent que Donald Trump a fait des progrès dans le processus d'unification des factions républicaines qui se sont livrées une lutte acharnée durant les élections primaires. Battant campagne dans le New Jersey, le candidat probable du Parti républicain a promis une Amérique plus forte, plus respectée à travers le monde, mais il a adopté un ton plus conciliant. Au même moment, Hillary Clinton doit faire face aux critiques de Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, promettant de ne pas raccrocher jusqu'à ce que le dernier bulletin de vote soit compté. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
La page économique avec Eric Manirakiza.
L'Afrique, confrontée à un immense défi de chômage, va connaître dans 15 ans la plus forte croissance de sa population active. Selon le FMI, plus de 10 millions de jeunes en âge de travailler sont inoccupés. Ces derniers s'ajoutent déjà aux 60% de sans-emploi. C'est une situation qui constitue une bombe à retardement pour la région Afrique, a estimé le FMI. Les syndicats nigériens ont mis fin ce dimanche à leur mouvement de grève pour reprendre les négociations avec le gouvernement. Ils s'opposaient à la hausse de 67% du prix de l'essence. Le Nigeria connaît des périodes difficiles. Son budget 2016 a été calculé sur une production de 2,2 millions de barils par jour, mais celle-ci ne dépasse pas 1,4 million de barils par jour. En France, le secteur pétrolier est devenu l'épicentre de la fronde contre la réforme du droit du travail. Le gouvernement peine à apaiser les craintes d'éventuelles pénuries d'essence. Les raffineries en grève, les dépôts de carburant bloqués ont entraîné une pénurie totale ou partielle dans quelques 1500 stations sur les 12 000 du pays. Malgré ces contestations, le bras de fer reste engagé. D'un côté, le Premier ministre Manuel Valls ne désarme pas et de l'autre, les syndicats maintiennent la mobilisation.
Place au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
En football, l'Espagne, double championne d'Europe en titre, a entamé sa préparation pour l'Euro 2016.
Un premier rassemblement n'incluant que 8 des 25 joueurs appelés par le sélectionneur Vicente del Bosque, les autres ayant été retenus par les échéances de fin de saison en club. Parmi les footballeurs convoqués au centre d'entraînement de la banlieue de Madrid, on retrouve les trois joueurs de Chelsea, Cesc Fabregas, Pedro et César Azpilicueta, ceux de l'Atlético Bilbao, de Manchester City, un de Villarreal et un de Celta Vigo. 10 autres joueurs espagnols ayant disputé ce week-end les finales des Coupes Nationales, dont ceux du FC Barcelone, disposent de quelques jours de coupure. Ils rejoindront la Roja le 28 mai.
L'entraîneur du Manchester United, Louis van Gaal, annoncé comme limogé.
Arrivé ce matin au centre d'entraînement des Red Devils avant d'être limogé dans la foulée, c'est ce qu'assurent en tout cas les médias britanniques sans confirmation du club. Le technicien âgé de 64 ans qui a remporté samedi la 12e Coupe d'Angleterre de Manchester United, mais il est fortement critiqué depuis plusieurs mois. En tout cas, le club n'a toujours pas confirmé cette information relayée par les médias britanniques, notamment la BBC et Sky News.
Tennis, tournoi de Roland-Garros.
Le Suisse Stan Wawrinka, tenant du titre, a souffert pour passer le premier tour de Roland-Garros en 5-7 aux dépens du Tchèque Lucas Rosol, 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 en 3h11 de jeu. Jamais le vainqueur sortant n'a été éliminé d'entrée à Roland-Garros.
Et la NBA, championnat de basket nord-américain.
Oklahoma City a infligé dimanche au champion NBA en titre et grand favori Golden State une cinglante défaite 133-105. pour reprendre l'ascendant dans la finale de la Conférence Ouest. À la pause, les Warriors comptaient déjà 25 points de retard. C'est du jamais vu, c'est inquiétant pour la franchise d'Oakland qui a remporté 73 de ses 82 matchs de saison régulière. C'était un nouveau record NBA.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et chérubin Gaby Torsi en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale Arusha.
Troisième jour de consultation en Tanzanie entre différents protagonistes de la crise burundaise, mais sans la présence de la plateforme Senared Geriteka, la coalition de l'opposition en exil. Ces consultations, sous l'égide de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, vont prendre fin demain. Elles sont censées servir de feuille de route pour de véritables négociations pour tenter de mettre fin à la crise burundaise. Eric Manirakiza a joint à Arusha l'ancien président burundais Sylvestre Nibantunganya.
Le caractère inclusif des consultations actuellement en cours, où on s'est interrogé sur l'absence à proprement parler d'une plateforme aussi importante dans la crise burundaise, dans la recherche de la solution, qui est le Senared. J'ai donc l'espoir, au vu des rencontres que nous avons déjà eues, et une avec le facilitateur, d'autres rencontres avec d'autres partenaires, que cette question d'inclusivité sera résolue. J'ai également espoir au niveau de la participation, de l'engagement de tous les protagonistes des négociations sera également assuré pour permettre que très rapidement une solution soit obtenue sur cette crise burundaise.
Est-ce que le caractère Senared devrait-il constituer un blocage en soi?
L'important, c'est que tous les groupes peuvent contribuer à apporter une solution aux questions consécutives à cette crise en matière de sécurité, en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme. Si une organisation comme la plateforme Senared s'est donnée un nom, s'est baptisée un nom, ce soit ce nom-là qui soit considéré quand on l'invite en tant que plateforme dans ces négociations.
On a vu un balai diplomatique se relayer au Burundi, mais Bujumbura est rester constant dans sa ligne. Est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui que Bujumbura va revoir sa copie?
Je pense qu'il n'y a pas plusieurs choix, à moins qu'on ne veuille faire le lit à ce qui se penserait que la seule voie qui reste pour trouver une solution à la crise burundaise est la voie de la violence.
Est-ce que les délais sont fixés pour les négociations qui vont commencer?
Dans les consultations que le facilitateur fait, et même dans les rencontres qu'il a eues avec l'un ou l'autre acteur, il nous est parvenu que son souhait est que ces négociations ne durent pas longuement. Lui parle de 2 à 6 mois, mais je vous dirais qu'au sein des protagonistes burundais, notamment des opposants à ce troisième mandat, j'en ai entendu beaucoup parler plutôt de pas plus de 2 mois.
Le président Sylvestre Nibantunganya à Arusha.
On connaît depuis hier les premiers résultats des élections communales au Burkina Faso. Pour ces premières élections locales post-Compaoré, il faut dire que la mobilisation a été faible selon la plupart des observateurs. Alors quelles sont les premières leçons à tirer de ce scrutin? Bagissi Koura a joint Ismaël Diallo, porte-parole du Front de renforcement de la citoyenneté à Ouagadougou.
Qu'elles se sont déroulées, quand même dire les observateurs, globalement bien, positivement, qu'il n'y a pas eu de grands dommages, de grands problèmes. Deuxième observation, c'est qu'il n'y a pas eu d'engouement, donc l'affluence n'était pas au rendez-vous.
Et comment on peut expliquer cela? Les gens n'étaient pas intéressés?
Les gens sont toujours moins intéressés par les municipales comparées aux législatives et aux présidentielles, à tort d'ailleurs, et ce qui est dommage, parce que leur vie quotidienne est plus proche et plus dépendante de la gouvernance locale plutôt que l'Assemblée, que le travail de l'Assemblée ou du bureau du président. Mais enfin, ceci est une chose. Une autre chose est qu'après l'insurrection en octobre 2014, Les aspirations ont été très, très, très grandes. Les porteurs de ces aspirations n'ont pas vu leur matérialisation au cours de la transition de 13 mois. Elles s'attendaient donc à ce que ces aspirations commencent à se matérialiser après les élections présidentielles passées. Apparemment, elles ne voient pas venir la rupture avec l'ancien système. Cela a également occasionné une grande désaffection pour les urnes.
Est-ce que c'est aussi parce que les gens ont été déçus par la corruption qui a miné les conseils municipaux qui étaient en place la dernière fois?
Il y a de cela. Et puis, la population, ou le peuple, cela dépend de chacun, commence à vouloir choisir des personnes physiques pour s'occuper de leurs problèmes immédiats, de leurs désidérata immédiats.
Pas des organisations, pas des partis politiques.
Exactement, plutôt que de voter pour des partis politiques. Nous avons d'ailleurs entendu plusieurs personnes dire « nous n'allons pas voter parce que nous ne connaissons pas les candidats de notre arrondissement ou de notre commune ». C'est vrai également que les gens n'ont pas vu venir la lutte contre l'impunité, contre les crimes économiques et les crimes de sang.
Quels sont les chantiers qui attendent les prochains maires?
C'est le retour de la bonne gouvernance, en un mot. Et cela, c'est très difficile. D'abord, que les maires connaissent leurs tâches et que les populations, les citoyens comprennent également et comprennent leur rôle. Il faudrait ramener une sorte de... à ramener ou apporter une compréhension du rôle de la mairie et des rapports entre la mairie et les populations.
Ismaël Diallo à Ouagadougou.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Des dirigeants et ONG du monde entier sont réunis à Istanbul, en Turquie, pour le premier sommet mondial de l'humanitaire. L'un des objectifs, c'est de trouver comment améliorer la manière de répondre aux crises humanitaires provoquées par les conflits et le réchauffement climatique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté le monde à prendre ses responsabilités, regrettant un partage inégal du fardeau. John Lennon a joint à Istanbul François Grunwald, directeur exécutif du groupe URD, Urgence, Réhabilitation et Développement.
Ça a été un processus très riche, très consultatif, avec beaucoup d'entretiens, de consultations dans tous les coins du monde, beaucoup de travail collectif, et que c'est quelque chose d'unique. Ça n'aurait jamais eu lieu comme processus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'évidemment, il a fait apparaître un certain nombre de grands dangers qui pèsent sur le secteur de l'aide humanitaire. D'une part, le risque d'une polarisation et d'une très forte tension entre acteurs du Nord et acteurs du Sud. Ensuite, un risque de tension si les mécaniques de l'aide, notamment au niveau des Nations Unies, n'arrivent pas à réellement réformer leur efficacité et leur capacité de mieux répondre. Et enfin, le troisième risque qui est que vous trouvez bloqué dans plein de situations de crise qui durent sur des manques de financement et que tout le travail qui se fait autour de ce qu'on appelle le grand bargain pour pouvoir améliorer les financements des crises durables à partir des budgets de développement puisse bien se mettre en place.
Le président turc a exhorté le monde à prendre ses responsabilités, regrettant un partage inégal du fardeau. Est-ce qu'il sera entendu?
Je ne sais pas si les questions se posent exactement comme ça. Je pense qu'en effet, il y a un partage complexe du fardeau entre pays du Nord et pays du Sud, entre pays qui reçoivent des réfugiés, pays qui les reçoivent en transit, pays qui les accueillent chez eux. Donc, c'est vrai que pour l'instant, le partage, il n'est pas très égal. Mais je crois que ça se pose aussi en capacité de gestion de problèmes qui sont autrement politiques que simplement l'accueil. C'est clair que pour beaucoup de pays qui reçoivent des réfugiés, par exemple au Liban, il y a des vrais problèmes de risque d'éclatement politique et de déstabilisation qui sont liés à la présence de ces grandes quantités de réfugiés. Et donc, ce n'est pas simplement une question de fardeau, c'est une question aussi de stratégie politique globale sur ces situations.
Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce sommet soit différent de ces grandes rencontres internationales qui finissent toujours par des résolutions, mais pas d'effets concrets sur le terrain?
On peut très bien voir qu'en effet, c'est une grosse manifestation qui va avoir quelques recommandations et qui n'auront pas d'effet. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut voir surtout, c'est que
ce sommet, et surtout les deux ans de préparation, ont mis sur la table, on fait apparaître sur l'écran radar des sujets qui n'avaient jamais été discutés avant. Le travail avec les acteurs du Sud, les sociétés civiles du Sud, les enjeux de la gestion de la préparation aux catastrophes, l'amélioration du lien et du développement, c'est des sujets qui étaient déjà discutés, d'autres qui n'étaient pas discutés et qui sont maintenant clairement sur la table des débats. Là, on ne pourra pas faire de retour en arrière.
C'était François Gunwald, directeur exécutif du groupe URD Urgence, Réhabilitation et Développement.
Les hauts représentants des deux plus importantes religions du monde, le pape François et le grand imam Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayeb, se sont rencontrés ce lundi au Vatican pour une réunion qualifiée d'historique. Les deux parties ont convenu de convoquer une conférence de paix, selon un communiqué d'Al-Azhar. Au micro de Jacques Aristide, Père Janvier et Marie-Gustave Yaméogo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au secrétariat pour la communication du Vatican. Il explique la signification de cette nouvelle rencontre dans le cadre du dialogue entre l'Église catholique et l'islam.
Ça a été une rencontre très cordiale et le Saint-Père et le grand imam d'Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam sunnite justement, ont souligné ensemble la grande signification de cette nouvelle rencontre dans le cadre du dialogue entre l'Église catholique et l'islam.
D'après le Vatican, ils se sont entretenus principalement de la paix dans le monde, du refus de la violence et du terrorisme, de la situation des chrétiens dans le contexte des conflits et des tensions au Moyen-Orient, ainsi que de leur protection. Est-ce que ce sont des sujets importants d'après vous ?
Oui. Ce sont des sujets, d'ailleurs, les plus importants qui font l'actualité. J'allais dire qu'on ne pouvait pas souhaiter, dans ce temps actuel-là, mieux qu'une rencontre qui réaffirme cet engagement commun pour les grandes religions en faveur de la paix dans le monde. Et le pape François ne fait que le répéter, le refus de la violence et du terrorisme. Et surtout, justement, la situation des chrétiens dans le contexte des conflits et des tensions du moins dans le Moyen-Orient. Je voudrais rappeler ici que quelques jours après sa messe de début de pontificat, le vendredi 22 mars 2013, il a dit, je cite, « Il est important d'intensifier le dialogue entre les différentes religions. Je pense surtout au dialogue avec l'islam. Et j'ai beaucoup apprécié la présence durant la messe du début de mon ministère de nombreuses autorités civiles et religieuses du monde islamique. Et il est important d'intensifier la rencontre avec les non-croyants également. »
Et ce tête-à-tête marque-t-il également une étape cruciale après 10 ans de relations tendues entre leurs deux institutions en raison de propos controversés de Benoît XVI en Allemagne en 2006 ?
Dans mon pays, il y a un proverbe qui dit que on ne revient pas sur les anciennes querelles. Donc, effectivement, il faut prendre acte des difficultés qu'il y a eu auparavant et se réjouir aujourd'hui de ce pas, de cette rencontre, et justement qui augure de plusieurs possibilités de collaboration, de coopération au niveau de ce dialogue interreligieux. Et d'ailleurs, après la rencontre avec le Saint-Père, Ahmed Al-Tayeb s'est également entretenu avec le cardinal Jean-Louis Thorin, qui est le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Donc, c'est une bonne augure et nous espérons que ces relations vont continuer pour le bien de toute l'humanité, pour la paix.
Voilà, c'était le père Janvier-Marie-Gustave Yaméogo, joint à Rome en Italie.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa. Toute bonne Toute chose a une fin, c'est la fin de cette édition. Mise en œuvre par Lionel Gaïma, avec l'assistance technique de Joe Gill à la console, présentation Morgane Guériac et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Dites-nous ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.